bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale avec Léla Cadou, Marina Rodman.
Bonjour Daniel.
Tanguy Pasturo sera là tout à l'heure, Daniel Morin.
Bonjour Marina.
Tom Villa.
Salut Daniel.
Et nos invités, Jeanne et Camille Cotin.
Oh.
Merci les filles de venir à ce micro nous parler d'une série. Ça va pas être simple d'ailleurs, parce que pour l'avoir vue, et au début je me suis dit, bon allez, je vais pas chercher à spoiler, je ne vais regarder que les deux premiers épisodes, comme ça je resterai objectif dans ce que je raconterai ensuite. Pas du tout. Je me suis fait les six épisodes,
ouais.
On avait la chance de pouvoir les voir pour mieux vous en parler aujourd'hui et vous donner envie de regarder Mouche. C'est à partir de lundi prochain à 21h sur Canal. Alors c'est qualifié de comédie dramatique.
Ah ouais.
C'est dramatique s'il lui arrive à Camille.
Dramatique.
Ah ben ça bascule dans le drama. En plus, c'est une série qui est construite comme ça, qui démarre quand même très sur un ton comédie, très enlevé, un peu transgressif comme ça, et qui bascule petit à petit là où ça doit aller, c'est-à-dire vers beaucoup plus de drama, de sentimentalité, d'émotion. Donc c'est une construction singulière et moi je trouve très efficace, ouais, et intéressante.
Ouais. Et donc Camille Cotin, c'est votre la part de drame, c'est un peu d'ailleurs votre vie qui est dramatique. Ça c'est le côté humour de la série, mais c'est aussi
le personnage.
Oui, c'est vrai. Mais c'est Nini aussi, c'est-à-dire qu'il y a un drame qui apparaît assez rapidement. La copine avec laquelle vous avez monté un salon de thé.
Un bar à thé.
C'est vrai.
On ne boit que du thé.
C'est vrai. La nuance, c'est anormal qui fait la vanne sur le salon de thé
et le bar à thé.
C'est que cette amie part. Elle meurt, mais elle est très présente dans la série.
Oui, c'est double deuil hein, quand même, ouais. Parce qu'il y a Nini, il y a sa mère.
C'est vrai.
Tout ça en très peu de temps. Donc on se demande comment elle tient toujours debout. Et elle tient. Elle a quand même un. Elle affiche un sourire éclatant, alors que, en fait, à l'intérieur, elle est brisée, cette femme.
La signature de cette série, c'est qu'il y a beaucoup de regards caméra, et vous vous adressez, vous nous parlez. C'est gênant pour une comédienne à qui on dit il faut jamais regarder la caméra, d'un coup, de jouer et de la regarder comme une animatrice télé,
Moi, ça m'a pas rappelé oui, c'est vrai, l'animatrice télé, j'y avais pas pensé. Non, moi, ça m'a fait penser au théâtre, en fait, et à l'aparté qu'on peut avoir et à la complicité qu'on crée avec le public.
Soliloque.
Et c'est un petit privilège, d'ailleurs. C'est-à-dire que le comédien qui va s'adresser au public, au théâtre, va créer un lien d'intimité un peu spécial par rapport aux autres. Et au début, ce n'était pas évident de ces adresses caméra, parce qu'il faut aller vite, il faut garder le rythme. C'était de trouver le bon rythme.
C'est peut-être encore plus troublant pour les acteurs qui sont autour, qui doivent jouer.
Voilà, au début, ils disaient, mais qu'est-ce que je fais moi pendant ce temps-là? Et Jeanne disait, tu continues, tu joues. Et après, c'est devenu carrément un truc que tout le monde jalousait, où régulièrement, il y avait des acteurs qui disaient à Jeanne, mais je peux pas avoir juste un petit regard là. Non, c'est que Camille.
Non, c'est le truc de, voilà, un peu à la.
C'est très ludique.
House of Cards.
Ouais, Franck Underwood qui fait ça.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Absolument.
Ouais, les romans, la double énonciation, ça, c'est un vieux principe aussi qui marche toujours hyper bien. C'est très efficace dans la complicité.
Woody Allen le fait un petit peu. Ouais.
Exact. Lundi 3 juin, donc, pas ce lundi. Lundi en 8 à 21h sur Canal. Ça s'appelle Mouche. C'est l'adaptation, il faut le dire, de la série anglaise à succès qui s'appelle Fleabag. Pourquoi vous êtes passé du sac à puce à la mouche?
Il y avait une cousinade dans le petit insecte.
Oui, mais Fleabag, c'est un sac à puce. Et le sac à puce a un vrai...
Fleabag, c'est le surnom de Phoebe. Dans sa famille, on l'appelait Fleabag. Fleabag.
La créatrice de la série s'appelle Phoebe Waller-Bridge. Elle est anglaise.
Donc moi, mon surnom, quand j'étais petite, c'était Mouche, parce que Camille, Camouche, Mouche. Et
je vois pas du tout
la raison pour laquelle... la raison pour laquelle on a
Camille,
gardé ce procédé, c'était que Fleabag, c'est mystérieux, c'est-à-dire sac à puce, on ne sait pas du tout ce qu'on va voir, il n'y a pas de...
On
garde un mystère, on n'incite pas.
Puis c'est ni moderne ni vieillot, c'était complètement énigmatique, un peu poétique, c'était super de ne pas mettre un truc qui serait moderne 6 mois.
Ouais.
Là, c'est intemporel et
ça fait mouche.
Oh yeah.
Batterie, qu'est-ce que
c'est même pas prononcé dans la série en fait.
Non, elle n'est jamais nommée. Ce personnage n'a pas de prénom.
T'as entendu un truc bizarre
qui te rappelle une interro. J'ai fini ma phrase.
Nous allons donc en reparler, bien sûr, mais d'abord des questions concernant Camille et Jeanne. Camille Cottin, pour le que lui a proposé comme cadeau son grand-père pour ses 18 ans.
Une valise.
Non.
Un voyage.
De la drogue.
Non.
Une école, une entrée dans une école, un animal, un cheval,
un
700 000
euros. Un iguane.
Alors, ça peut avoir un rapport avec l'argent, oui. Il a proposé de
un
lui offrir quelque chose.
Un tour du monde.
Son héritage à l'avance.
Pièces. Non.
Une maison.
Vous avez remarqué, Camille, l'élégance
lingot,
de cette équipe.
Un lingot d'or.
Une collection de timbres.
Alors non, c'est quelque chose de totalement inélégant. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas du
et
tout
qui
pensé.
Qui a à voir avec l'argent
qui a non, de lui payer quelque chose.
Un pantacourt.
Mais non.
Un homme.
Un homme.
Je ne sais pas.
Non.
Un truc inélégant.
Une opération esthétique.
Une rhinoplastie.
Mais enfin, mais j'apprends quelque chose, mais c'est pas possible.
Si. C'est votre grand-père, hein, c'est ça? On se trompe pas?
Ouais, c'est mon grand-père.
Et il a dit, pour tes 18 ans, je te paye une opération du nez.
Je regardais la télé, il est venu s'asseoir à côté de moi. Et j'adorais mon grand-père, vraiment. Et en plus, il aimait tout ce qui était... T'es passionné par la modernité. Bon, bref. Et il s'est assis à côté de moi. Il m'a dit, tu sais, pour tes 18 ans, je veux bien t'offrir une opération du nez. C'est vrai que je suis un peu perplexe.
C'est une violence.
Mais non. Non, moi, je viens d'une famille où on se dit tout.
Ouais.
Le bon comme le pas bon.
D'accord. Non mais le pas bon. Mais...
Le beau comme le laid.
Pardon. Une fois que le nez est là, il est là. On fait.
Non
avec.
Mais ça aurait pu. Hein. J'aurais pu sauter de joie et dire mais merci. Mais d'ailleurs j'ai étudié la
proposition. Non parce que justement vous êtes.
Non mais j'ai étudié
vous
la
êtes dans une famille où on se dit tout. Donc si on se dit tout, c'est on a plus de soucis par rapport à son image. On a plus.
Ah non.
De...
Non. En tout cas, on sait où on en est, quoi.
Ouais.
Et en termes de nez, je savais où j'en étais. Ouais. J'avais pas attendu qu'ils me disent qu'il fallait peut-être envisager une opération pour voir que j'avais un nez un peu présent, quoi. Donc voilà, mais après, j'ai étudié la proposition et finalement j'ai décliné.
Très bien.
Mais heureusement,
et vous avez bien
gardé
fait,
l'argent clairement. Ou pas? Parce que moi j'avais demandé l'argent en échange.
J'ai demandé une moto.
Ah ouais, c'est pas mal, ouais.
Jeanne, pourquoi ne garde-t-elle pas un très bon souvenir de sa dernière prestation en tant qu'actrice? C'était dans le film Jean-Philippe.
Elle a été coupée?
Exactement.
Oh, mais c'est pas du tout pour ça que j'en garde pas une bonne truc.
Un bon souvenir?
Ah bah pas du tout. C'est parce que moi je voulais être actrice. J'ai fait les seules études que j'ai fait dans ma vie, c'était pour faire ça, que j'ai commencé, on va dire, avec des premiers rôles et que, au fur et à mesure, au fil des tournages et des projets, j'avais des rôles de moins en moins importants et que j'ai commencé avec des premiers rôles et que là, d'un coup, j'étais silhouette. Et je me suis dit, il y a un problème avec la direction de cette carrière, en fait. Et j'en garde un mauvais souvenir parce que je me suis vraiment dit, ils sont hyper sympas de m'avoir pris, c'est pas la question, mais qu'est-ce que je fais là? Il faut que j'arrête. Donc, ce jour-là, j'étais en train de me faire maquiller et je me suis dit, il faut arrêter.
Une carrière là, Benjamin Button, un peu.
Et j'ai arrêté, c'est ça.
C'est ça.
J'ai arrêté mais c'est pas du tout, on m'a coupé, mais comme ça reste dans ma filmographie, qui est maigre, les gens m'en parlent tout le temps, donc je dis oui, bien sûr.
Le pire truc que l'on puisse faire à une silhouette, c'est en plus de la couper. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la descente de chez descendre.
Mais oui,
passer
j'étais
de premier
même pas
rôle,
là.
C'est ça.
J'étais une silhouette coupée, ce qui est un peu le fond du trou.
Camille Cottin a tourné une publicité avec Brad Pitt. Dans cette publicité, elle était topless. Mm-hmm. Mais
Brad Pitt aussi.
Mais pas en vrai.
Non.
Mais elle
avait
son nez quand même en
mais de dos. Mais
exactement. Topless de dos, c'est-à-dire face à Brad Pitt.
Bah non, dos à Brad Pitt aussi.
Vous étiez
hein.
Dos à tout le monde alors.
À tout le monde.
À tout le monde. Vous n'avez pas pu vous exhiber à Brad Pitt?
Non.
C'est ballot.
Oh là
là, c'est ballot. C'est une pub pour quel genre de produit? Sans citer de marque. Hein,
c'était un téléphone japonais. C'est surtout Wes Anderson qui a réalisé la pub.
Ça, punaise.
Chic.
Ouais.
Quel casting! C'est le genre de pub que font les stars américaines, mais qui ne sont jamais diffusées dans leur propre pays, c'est
bien
ça?
Sûr.
Voilà, ils prennent un blé fou, mais c'est diffusé dans d'autres pays.
On embrasse Jean Reno.
On embrasse, je pense, beaucoup d'artistes qui doivent faire ce genre de publicité. Est-ce qu'il était élégant? Parce que dans ce genre de situation, quand on se retrouve.
Mais en fait, c'était un plan séquence et j'étais très loin de lui.
Ah.
Et donc, je ne lui ai pas parlé ce jour-là.
Vous
je parle de ce jour-là parce que je l'ai rencontré après sur Allier quelques années plus tard. Et il est très élégant. très très élégant, très sympathique, très délicat. Enfin, c'est, je pense du peu que j'ai perçu que c'est quelqu'un de, ouais, de
vous,
bien. Vraiment.
Vous avez raconté qu'il était poli, qu'il disait bonjour à tout le monde sur le tournage, qu'il ne se la racontait pas plus que ça. Quoi.
Ouais ouais ouais. Puis même nous, il avait un chef qui cuisinait. Je parle de Allier, hein, pas de Wes Anderson, mais qui cuisinait parce que c'est vrai que la nourriture sur les tournages anglais c'est hard, vraiment. Ardos. Et il n'y a pas de pause déjeuner comme en France. Alors qu'en plus, ils se disent que nous, on boit du vin. Ils se disent, mais ils sont malades. Mais vraiment, ils nous regardent. Bon, bref. Et donc lui, il a quelqu'un qui cuisine pour lui.
Son chef, ok.
Voilà, une nourriture équilibrée et saine. Et voilà. Et c'est vrai qu'il nous a très vite invités avec l'acteur français. On était à peine silhouette sur le film. On avait 10 jours de tournage. Il nous a invités à tous les jours, on avait
partager.
Notre petit plat du chef. Dans la... Vraiment sympa.
Classe. Alors qu'elle est nommée au César pour son premier film, Elle l'adore. Qu'avoue, Jeanne Herry, un journaliste de West France.
Elle l'a pas vu.
Alors.
Son film ?
Non. Je vais vous donner le début de la phrase et vous finissez la phrase.
Ah, voilà.
Ça fait
je suis très heureuse d'être à la soirée des Césars, mais ça ne prend pas plus de place dans mon agenda que.
L'anniversaire de.
Que mes enfants.
Ouais. Enfin, que le tennis de mon fils. Bah écoutez.
C'est pas plus important.
Ouais. Ah bah si, c'est plus important que d'amener mon fils au tennis. Faut pas déconner non plus. Je vais avoir plus le trac d'aller au César que d'emmener mon fils au tennis.
Je sais pas,
tennis.
C'est pas moi qui l'ai dit.
C'est une interview dans West France.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Bah, okay, très bien.
Ça y est, ça veut dire que je commence à avoir une carrière parce que je commence à faire comme ouais. les autres, à dire moi j'ai dit ça. Non mais c'est très important d'amener mon fils au tennis d'ailleurs.
Et comment, oui aussi.
Bien sûr.
Et cette cérémonie, comment vous l'avez vécue de l'intérieur pour Elle l'adore ?
Pour Elle l'adore, j'étais plus stressée que la deuxième fois. Oui, car j'ai été nommée une deuxième fois pour mon deuxième film. J'étais plus stressée, ouais. J'étais, c'était émouvant d'être là, mais j'étais comme les gens qui passent à la télé, qui disent putain, mais je suis dans le décor que je vois moi d'habitude, je vois les fauteuils, je vois les gens.
J'imagine que vous croisiez aussi tout le monde du cinéma, certains mais que ouais. vous connaissiez, d'autres pas.
Non. Bah oui, plein. Donc,
On fait des RP dans ce genre de soirée, on laisse ses coordonnées, on échange. Prendre des contacts.
Ben peut-être. Moi, pas trop. Moi, j'étais un peu au spectacle. J'étais heureuse d'être là et je voulais juste en profiter. Mais moi, je savais que c'était l'année où il y avait les combattants. Donc, je savais que moi, j'aurais rien.
Que vous avez peur de combat.
Bah, ouais.
Qu'est-ce que Camille Cotin a dû apprendre, parce qu'on apprend toujours pour faire des tournages. On prétend savoir faire plein de choses pour avoir un rôle. Et puis
le cheval.
Elle a dû apprendre. Alors, pas le cheval, non.
Piano, violon.
Non.
Mais pourquoi ?
Pour
chanter.
Un film.
Oui, bah oui.
Chanter.
Pour un film, j'ai pas le titre du film, pardon.
C'est un sport ?
Non, alors c'est pas un sport, c'est une activité physique.
Yoga.
Langage des malentendants.
La danse, non. Le tango.
La danse. Ah. Et quelle danse ?
Cha-cha. Allez.
Le tango.
Classique.
Le
salsa.
Non.
Rock.
Le hip-hop.
Non. Une danse pas évidente à danser.
La rumba.
Pas évidente à danser, pas évidente à danser.
C'est le film de Clapton.
Passo doble.
Non. Tango, on l'a dit.
La salsa, la samba, on a déjà dit.
Capoeira.
La valse.
Non.
Capoeira.
Le pogo.
Get down on it. Je sais pas, tu fais des signes.
Get down on it. Oui, descendez vers le
code. Le funk, la soul, le truc.
Ok, bon.
La danse orientale.
Je vais donner la danse, puisque tu avais dit la danse africaine. Vous avez appris
mais
la
mais
danse.
Mais ça a été coupé.
Ah, je savais pas, pardon.
Ouais, ouais. Mais non, mais moi non plus. Je l'ai découvert en projo, il y a pas longtemps. J'ai dit, ah, c'est marrant.
Je me suis fait chier 6 mois.
Et vous avez bossé fort pour la danse
ouais,
africaine.
C'est vraiment le truc de comédien. J'ai pris 3 cours de 2 heures et je suis là, ah putain, je suis donné quoi. Non, j'ai pris.
Non, mais ça doit être frustrant quand même. Pour n'importe quoi, bosser et que ça serve à rien, c'est un peu frustrant,
non,
quel que soit le métier.
Non, ça sert pas à rien. Ça sert pas à rien. En fait, j'avais envie de la voir, la scène, j'étais curieuse, ça me faisait marrer. Mais.
C'est pour quel film alors ?
Le film de Clapiche qui va sortir là en octobre, je crois.
D'accord.
Ça s'appelle Deux mois.
Deux mois, oui.
Okay.
Mais voilà, mais c'est très plaisant ça dans le quand même dans le métier de comédien de se former à des trucs un peu amusants, ça c'est très plaisant, c'est comme le Honoré où j'ai appris à chanter, c'était joyeux aussi.
Que lui disait la maman de Jeanne pendant le tournage de Milou en mai alors qu'elle était dirigée par Louis Malle ?
Arrête.
N'écoute pas.
Exactement.
Ouais.
Ne fais surtout pas ce qu'il te dit.
Ne l'écoute. Écoute-le bien sûr sur les mais pas sur toutes les directions qu'il donnait bien sûr, mais comme j'étais une petite fille que j'avais 10 ans, il me jouait la réplique avant que je la joue. Et comme il jouait faux, qui jouait mal et qui jouait vraiment comme une enfant dans les pubs en disant alors là tu vas la voir, puis tu lui dis pourquoi t'as attaché ta copine, et il disait pourquoi t'as attaché ta copine. Alors je dis d'accord. Et moi, je le jouais normal, quoi.
Maman étant miou-miou, quand même.
Bien sûr, faut elle avait une expertise aussi.
C'est important, voilà. Mmh. Est-ce qu'elle, vous coachez, vous donnez des conseils beaucoup plus précis, ou faisait la répétitrice, je sais pas, comment
pas
une
vraiment.
Maman, comédienne, actrice aussi brillante, aide sa fille dans un rôle aussi important?
Déjà, elle était pas très heureuse que je fasse ce truc, elle avait très peur pour moi, mais...
Pourquoi elle avait accepté que vous le fassiez?
Parce que moi, j'étais plutôt motivée, je trouvais ça marrant. Et puis après, elle m'a quand même accompagnée le premier jour du tournage, alors qu'elle-même ne tournait pas, mais elle m'a accompagnée. Et je me souviens, oui, une fois, elle m'a dit deux choses. Elle m'a dit, n'écoute pas, ne joue pas comme il fait lui. Louis est un Louis mal. Et à un moment donné, je devais regarder dans un truc comme s'il y avait des écrevisses et être très intéressée dans un sac. Or, évidemment, dans le sac, il n'y avait pas d'écrevisses, il y avait de la paille. Et donc, je l'ai fait, mais je ne l'ai fait pas très... Et juste, elle m'a glissé à l'oreille entre deux prises. Elle m'a dit, mais moi... Je sais comment tu ferais s'il y avait vraiment des écrevisses dans ce sac. Je pense pas que tu joues vraiment qu'il y a des écrevisses dans ce sac. Moi, je te connais. Et tout d'un coup, ça m'a ouvert un truc où j'ai joué, quoi. J'ai mieux joué. J'ai joué avec mon imaginaire aussi.
Et alors, ce plaisir, justement, du conseil, je sais pas, on appelle ça la direction, vous le retrouvez maintenant, en dirigeant, voilà, des acteurs et des actrices. On passe par des chemins détournés pour faire passer des messages. On va pas jouer la scène en disant je veux que tu la fasses comme ça. Comment une réalisatrice communique avec ses acteurs?
Ça va dépendre des acteurs et des réalisateurs. Moi, je suis passée par un cursus de formation pour être actrice, donc je suis pas une super actrice, mais je comprends, je connais ce travail, je connais leur activité, je sais par où ils passent, je sais qu'on peut à la fois parler du fond, parfois juste de la forme. Donc j'ai tous ces petits outils à ma disposition. On montre pas, non, c'est un peu maladroit de montrer, encore que parfois, moi je sais qu'il y a des acteurs, Olivia Côte par exemple, avec qui je travaille de temps en temps, quand j'arrive pas, elle me dit mais vas-y, joue là, fais, qu'est-ce que t'entends ? Mais ça arrive, mais très peu, et je le ferai pas avec des acteurs qui n'aiment pas ça. Puis de toute façon, ça n'a aucun intérêt parce que moi je le fais moins bien qu'eux. Mais
oui, puis que chacun le fait à sa manière aussi.
Mais évidemment,
il y a
pas.
Ouais.
C'est aussi le mystère de ce métier, hein, qui accueille toutes formes de gens qui viennent de partout et qui a mille façons de bien travailler. Moi je m'appuie beaucoup quand même sur le texte qui est écrit, parce que je demande aux acteurs de le respecter quand même assez rigoureusement. Et puis après, je sais pas. On communique.
Vous venez de dire je suis pas une bonne actrice. Qu'est-ce qui vous manque d'après vous? Parce que comme vous dirigez d'autres acteurs, qu'est-ce qui fait que vous ne vous considérez pas comme une bonne actrice?
Mais c'est pas vrai. Hein.
Si, ouais, si, c'est vrai. Je suis pas une mauvaise actrice non plus.
Ah ouais,
je suis pas une bonne actrice dans le sens où je suis moins bonne que toutes les personnes que j'ai
avec
la chance avec qui je travaille.
Ouais. Mais en quoi vous êtes moins bonne? Parce que pour nous qui ne sommes pas des comédiens, c'est...
Je pense que j'ai pas assez faim, ça m'intéresse pas autant finalement maintenant que je me sens moins à ma place, donc je suis plus encombrée comme actrice, je me pose, je pense, trop de questions, j'ai mis du temps à accéder à une forme d'abandon qui est hyper nécessaire quand on joue, cette alchimie de la maîtrise et de l'abandon tout le temps, je maîtrise mais j'abandonne, je contrôle et en même temps je me laisse faire, se lâcher prise, se laisser faire, il a été difficile à obtenir pour moi, j'ai eu du mal à y accéder, donc ça fait que je ne pense pas que je sois très intéressante, pour de vrai.
Alors, on est vraiment dans le lâcher prise, Camille Cotin, dans cette,
les deux.
Dans cette série.
Ouais. Énormément de maîtrise.
Comment vous la définiriez? C'est l'histoire d'une femme qui, justement, perd tous ses repères. Sa maman dans sa famille, sa copine dans son boulot, qui a une vie privée, voilà, qui a une vie privée assez...
C'est une femme, c'est une femme qui. Ce que dit Phoebe Waller-Bridge quand elle a écrit la série, c'est que ça l'intéressait de traiter un personnage qui, face au deuil, au grand malheur, au désespoir, affiche quelque chose d'éclatant et de solaire, alors que l'intérieur est complètement détruit.
Ouais.
Voilà. Et effectivement, il y a un rapport au sexe qui vient combler un manque affectif terrible et une solitude extrême. Et donc il y a un appétit sexuel démesurés et des rapports familiaux extrêmement violents.
C'est clair.
Ils
sont amusants en apparence et qui finalement, au bout du compte, deviennent carrément anxiogènes. Voilà.
C'est et l'appellation comédie dramatique qui prend tout son
c'est
sens.
C'est ça. Et c'est une. En fait, il y a un style aussi dans l'écriture, au-delà des vannes, j'ai pas envie de dire des sketchs, des séquences, puisqu'il y a des. On pourrait les prendre d'une manière comme une sorte de parenthèse, sans forcément savoir ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y a eu après. Et pourtant, il y a une trame. C'est une écriture particulière en termes de réalisation. Il y a pas vraiment, il y a une intrigue qui se révèle à la fin, mais qui n'est pas présente en permanence.
Non, c'est un portrait en creux de cette jeune femme qui est gentiment en train de rater sa vie à peu près partout. Et c'est un portrait en creux de sa vie à la fois sentimentale, sexuelle, familiale, le naufrage évidemment de professionnel. Et puis au fur et à mesure, dans ce portrait, puisque c'est un portrait en creux, il y a quelques pleins qui arrivent. Ce sont des flashbacks où on comprend ce qu'elle a perdu, ce qu'il habite. C'est vraiment quelqu'un qui est habité par les souvenirs des personnes qu'elle a perdues. Et effectivement, c'était ça qui était hyper séduisant dans cette série anglaise. Non,
surtout qu'elle est
brillante.
Totalement barrée, Jeanne, parce que là,
elle est barrée.
Elle est malheureuse.
On est que sur le côté dramatique.
Elle est hyper transgressive.
J'ai ri, mais toutes les 10 secondes.
Bah oui,
il y a une vanne, il y a un truc choquant. Déjà hier, j'ai dit demain, nous retrouverons Jeanne-Éric et Camille Cotin, nous parlons de sodomie. Et évidemment, c'était volontairement choquant parce que c'est la première scène, pratiquement, ou dans les premières minutes du premier épisode, lundi 3, je le rappelle, à 21h sur Canal.
Elle ne se censure jamais.
Voilà. Elle est provocatrice.
Elle s'interdit rien et elle va effectivement, elle le dit hein, d'ailleurs quand elle écrivait avec sa super copine, ou sa copine disait dans une interview, elle dit ça. Oh non, mais ça, on ne peut pas le dire. Bah pourquoi? Bah si.
Mais on peut d'autant plus le dire que c'est une adresse à la caméra. Donc c'est comme si on pénétrait aussi ses pensées. Et on peut aussi très bien se reconnaître, non pas dans forcément tout.
Ah bon
tous les. Non, mais c'est pas ça, mais.
Mais si t'as besoin de parler, vas-y.
La pensée, certaines pensées qui la traversent, en fait, c'est des choses qu'on peut pas dire publiquement, mais qui peuvent nous traverser, nous. Et c'est ce que je trouve beau aussi, ce côté un peu puzzle de cette fille qui est un peu éparpillée, elle aussi.
Oui. Ouais, mais qui se bat aussi, parce qu'elle n'est pas brisée, c'est une combattante, pour reprendre le terme.
Elle est provocante et transgressive, et elle adore choquer ça l'amuse énormément. Elle est quand même, c'est quand même très ludique et puis c'est vrai qu'on a la chance qu'elle se confie à nous et d'avoir accès à son intériorité, à ses pensées de manière très ludique. Encore une fois, c'était un projet qui est quand même très 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 drôle, je suis d'accord.
Le texte, c'est une traduction fidèle du texte anglais.
C'est pas une traduction
une adaptation
fidèle. Non, mais
fidèle.
Tout à fait. Oui, c'est une adaptation extrêmement fidèle. Oui, parce que la série anglaise, elle est géniale, donc je voyais pas trop pourquoi.
Après, Jeanne a ajouté des scènes.
Voilà, au bout d'un moment,
elle a ajouté pas mal de scènes. Elle a développé notamment l'amitié avec Nini et elle a ajouté des scènes aux funérailles de maman. Et ce qui est étonnant, c'est que en saison 2, la créatrice ajoutait des scènes de funérailles. Donc quand c'est arrivé, moi j'étais parce que je me suis dit bon, vu que ça n'aille pas à l'encontre. Et non, elle a presque écrit avant Phoebe ce que Phoebe va écrire après.
La saison 2 de Fleabag est super.
Ouais. Il y a un casting de dingue aussi, il faut le préciser. Camille Cotin pour le rôle principal de Mouche. Rôle aussi principal, Louise, la sœur, qui prend de plus en plus d'importance dans la série. Suliane Brahim, qui est dinguissime.
La comédie française.
Pierre Deladonchamp, Didier Flamand, le papa. Anne Dorval, alors elle, c'est à la fois la marraine et la nouvelle épouse du papa, qui est odieuse.
La méchante type.
On a tellement envie de la coller contre le mur et pourtant c'est tellement drôle les scènes avec elle. Nini jouée par India Herr, Bruno Bléré qui joue Grégoire, Stanley Weber, le beau gosse, mais c'est pas son nom dans la série, il s'appelle Trou de Balle.
Ouais, Trou de Balle, il est crédité par Trou de Balle.
Il s'appelle Trou de Balle car c'était le nom, c'est son nom hein.
Oui, c'est sa cible aussi. Hein,
Il est assez obsessionnel du trou de balle, je pense. Voilà, c'est effectivement pas le sien.
Sur un CV, c'est bien.
Celui de Mouche, en l'occurrence.
Benjamin Laverne est excellent, mais comme tout ce qu'il fait. Et lui, il est dans de castor, et ça se comprend. Et je crois qu'on va dans la bande annonce. Non, mais dans la bande annonce. Les deux dans de castor. Et Youssef Hadji, qui est formidable également, parce qu'ils vont se retrouver dans une espèce de... de bootcamp psychologique d'un côté les filles, d'un côté les garçons de l'autre.
C'est d'arnaque.
Ah, c'est dingue. Non, c'est extrêmement
drôle. On est esclaves.
Ça s'appelle Mouche, à ne pas manquer à partir du 3 juin sur Canal et c'est un succès annoncé.
Oui, ça sent le succès. On va juste revenir sur un point sur Mouche, quand même deux secondes. Donc la série américaine, anglaise, c'est Fleabag parce que Phoebe et Mouche. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on vous appelait
Ouais, c'est Camille, Camouche.
D'accord. Mouche. Ok, bah, allons-y. Donc Nagui, Nagouche, Babouche. Allons-y. Il n'y a pas de problème. Là. Daniel, Dany, Danette. Non, mais on s'en fout. Est-ce qu'on peut faire deux minutes sur les surnoms? Parce que autant il y en a qui claquent, tu vois, Michael Jackson, King of Pop, Bruce Springsteen, The Boss. Marc Dutroux, le monstre de Charleroi. D'ailleurs, tu remarqueras, les surnoms, c'est soit pour les chanteurs, soit pour les tueurs en série. Il n'y a pas de Mark Levy, The Genius. Non, enfin si, ils sont, banquiers, ils l'appellent ma poule aux odeurs, mais ça, c'est dans le privé. Mais, et puis, tiens, quitte à prendre deux minutes sur les surnoms, pourquoi certains donnent des surnoms plus longs que le nom eux-mêmes?
C'est vrai.
Franck devient Francky, Jeff devient Jeff Hounet. Nous, dans l'équipe, on a Guy qui est devenu Guillermo. Guillermo Guy, ce qu'on embrasse, il s'est dit Guy, ça fait un peu mec qui va draguer dans l'été dansant. Je vais prendre Guillermo, ça fera cartel colombien, mais comme il a une peau de roue, du coup, ça fait surtout très con. Et puis, il y a des surnoms à la con. Non, il y a des surnoms qui sont assez propres aux techniciens dans le milieu du spectacle. Alors, t'as toujours un régisseur qui s'appelle Bibi, Bouli, Bobo, Bibou, La Flèche, La Bosse. La Bosse, en réalité, il s'appelle Jean-Claude, il y a 49 ans, il en fait 62. Il est régisseur lumière au Festival d'Avignon, il fait 5 spectacles en 3 heures. Et sa passion, c'est de boire des bières en démontant des projos. Et il s'appelle La Bosse parce qu'en 97, il s'est pris un spot sur la gueule et que depuis 22 piges, il a toujours La Bosse. Faut arrêter avec les pseudos, hein, de Belette, Renardo, Popiette, ou sinon. Non, mais si, ou alors t'es routier, t'as pas de portable et t'as une CB. Voilà, Belette qui tousse pour Popiette au fromage. Il y a de la fliquet à la sortie numéro 13 à côté du Kiloutou. Non, mais.
C'était le QRZ, ça, le nom CB.
Non, mais le pire. Alors, le pire, c'est les surnoms de couple. Alors, faudra quand même faire une émission spéciale. J'ai une copine, je vous jure que c'est vrai, elle appelle son copain ma petite crotte. Et elle le fait en public. Et l'autre, il est content, il trouve ça mignon. Alors, ma petite crotte, dans 30 pis, ils ont 30 ans. J'ai très peur que quand ils en auront 50, ça dérive un petit peu. Ils pourront plus se blairer.
Bref.
Allez, on le répète, les surnoms en couple, hein, c'est dans l'intimité, pas en public. Donc voilà, les gens qui surnomment bébé, le jour où ils ont des enfants, ils surnomment comment? Parents? C'est débile. Allez. Je vous laisse avec Nagouche et on peut applaudir toute l'équipe technique de l'émission. Bubu, Koumkoum, Denis Lavemèche, Mironton et Barjabu.
Ah c'est ouais, vrai en plus.
La bande originale, Nagouche, sur France Inter.
Qui a découvert Fleabag, la première de vous deux? C'est vous, Jeanne, qui avez contacté Camille. C'est Camille qui était porteuse du projet.
Non, pas du tout.
Ah,
c'est
ah bon.
ma sœur qui est Avril Besson, qui est monteuse et bientôt réalisatrice, montait un documentaire réalisé par Iris Bray sur la sexualité féminine dans les séries anglo-saxonnes.
D'accord.
Et donc, Fleabag n'avait pas de traduction quelconque, ni même sous-titrée. Et elle me dit, donc c'était il y a à peu près 2 ou 3 ans. Il faut absolument que tu vois cette série. Les sœurs, c'est nous, c'est dingue, regarde ça. Et donc, j'ai regardé la série et ça m'a rendue hystérique de joie et de bonheur. Mais ça, c'était il y a bien longtemps, bien avant qu'on envisage un quelconque...
Mais justement, comment porter un projet ensuite quand on est actrice? C'est-à-dire, vous allez voir des producteurs, vous allez voir
Jeanne? Non, mais c'est les producteurs, en fait, qui ont racheté les droits. Et qui ensuite...
On pensait à Camille, non, ils savaient pas.
Rien. C'est pas que je l'avais vu, que je connaissais, que j'adorais.
D'accord.
Bah, moi, je connaissais pas, c'est eux qui m'ont proposé et qui m'ont fait découvrir, du coup.
Et c'est la première fois que vous réalisez une série?
J'avais fait 2 épisodes de 10% avec Camillette, déjà. Mais en saison 2. Mais c'est encore un pas de plus dans le monde des séries. C'est une adaptation.
Vous l'apportez. Est-ce que vous êtes rencontrés avec Phoebe, la créatrice anglaise?
Ah, moi j'aurais très très peur.
C'est étonnant, ouais.
Camille a écrit un mail.
J'ai écrit un mail au bout de 2 semaines de tournage en lui disant que j'étais hyper heureuse, mais que j'avais très peur, mais que j'étais hyper heureuse, que je l'aimais, que c'était une réalisatrice extrêmement brillante qui réalisait et qu'elle était hyper impliquée dans le projet. Et
elle vous a répondu?
Donc au début non, je me dis non mais c'est normal, elle réécrit le James Bond, elle a des trucs à faire.
Elle a un peu d'autres trucs à faire.
Et là, il y a 3 semaines, j'étais sur mon scoot au feu rouge, je m'ennuie un peu, je sors mon portable, je scroll et là je vois dans mes mails Phoebe Waller-Bridge. Donc là, voilà. C'est pas moi qui ai fait le crime mais c'était celui-là.
Et très bien timé en plus, bravo.
Et elle nous a écrit à Jeanne et moi un long mail vraiment très très chaleureux. En plus, il se trouve que 10% marche plutôt très bien en Angleterre, donc elle connaît.
Ouais.
Et elle connaît Camille. Camille, t'es un peu une petite star là-bas, il faut le dire.
Oh. Ben voilà.
Non, tu que ce shirt.
Tais-toi.
Depuis Connasse, le film, déjà, vous étiez en Angleterre. Donc y a...
ouais, ah, c'est vrai qu'il y a des scènes à Buckingham, ouais. C'est vrai, c'est vrai.
Vous êtes allé la voir sur scène parce qu'elle fait du one man.
Non, là, elle est à New York, mais si ça se reprend à Londres, oui, j'irai la voir.
Ça reprend en août.
Il y a des dates.
Ouais, 30 représentations après le jour. Mais ça met du monde
dans
la vie.
Mais c'est complet. Mais c'est complet.
C'est complet. Mais c'est nous maintenant, on fait partie de l'équipe. Voilà.
Mais elle joue en août en Angleterre, tu veux dire.
Ouais, on prend à Londres 30 dates.
Ah ouais, d'accord.
J'ai très envie de le voir.
Il y a une saison 2, mais il n'y aura pas de saison 3. Elle reprendra quand elle aura 50 ans, elle dit ça.
Très bonne idée.
Celle qui crie si bien. Et en plus, avec le bon timing,
oui,
c'est Marina Rollman.
Alors aujourd'hui, on reçoit Camille Cotin et Jeanne Herry pour une série formidable, et ce, la semaine du Festival de Cannes. Donc moi aussi, je voulais vous parler un peu d'audiovisuel, de grand cinéma, plus précisément du film que j'ai vu hier, John Wick 3 Parabellum. Ouh là là, film de bagarre, tout le monde voit ce que... Non. Cette chronique, juste, ça contient des spoilers, donc si vous ne l'avez pas vu, partez. Donc, contexte.
Bah, disons.
Contexte de la voiture.
Nous interrompons cette émission, un monsieur vient de descendre sa voiture en train de rouler.
À côté du Kimoto.
Donc, contexte pour les auditeurs qui ne voient pas ce que c'est, John Wick, et qui vont au cinéma que pour voir des rétrospectives d'Api Chapong, Véracé et Takul à la Cinémathèque Georges Perec, suivi d'une table ronde avec des titres style cinéma de genre ou genre de cinéma.
Ouais.
John Wick, c'est donc une franchise de films d'action centrée sur le personnage de John Wick. Voilà. C'est un tueur à gages retraité qui est dans le premier volet de la saga sorti de son EHPAD pour venger la mort de son chien et qui, ce faisant, s'est attiré les foudres de tous les autres tueurs à gages du monde.
Génial.
Donc, bagarre. Alors, ils essayent de mettre de l'intrigue entre deux bagarres, de t'expliquer pourquoi les gens se bagarrent, mais à chaque fois tu ressors d'une scène où ça parle, tu dis quoi ? Tu comprends encore moins l'action. Donc, il vaut mieux accepter le postulat de départ qui est, pendant 2 heures, à chaque fois que Keanu croise le regard de quelqu'un,
bagarre.
L'équivalent de la population de Niort va décéder. Et voilà, c'est comme ça.
Yes, Niort, tranquille.
Et franchement, c'est tellement bien. C'est une espèce d'Eurovision des tueurs à gages. Chaque scène, tu changes de décor et donc de nationalité. Et c'est un peu borderline raciste, la manière dont on dépeint chaque univers. Par exemple, il y a une partie du film qui se passe à Casablanca. Si tu n'as jamais été, t'as l'impression que Casa, c'est juste une grande citadelle médiévale qui produit principalement de l'or fondu et de la poussière. Mais on s'en fout, parce que c'est super. Et c'est particulièrement bien à voir au cinéma parce que c'est une franchise qui sait qu'elle parle aux fans et qui donc constamment fait des clins d'œil. Donc la salle réagit. Je sais pas vous, mais moi, à part Star Wars et les films de super-héros, c'est très rare d'avoir une salle entière qui fait des « Oh, ah, et qui applaudit. 5 fois hier soir, ils ont applaudi.
Oui.
C'est hyper agréable, particulièrement parce qu'on vit dans un paysage culturel très fragmenté aujourd'hui. Chacun regarde dans son coin sa super série libanaise. Faut absolument que tu vois, c'est un mélange entre Black Mirror et Marc et Sophie, c'est hyper intéressant. Mais donc on vit assez peu d'émotions de groupe finalement. Et John Wick réussit vraiment ça, le film universel, pour 2 raisons je crois. Déjà des enjeux auxquels tout le monde peut s'identifier. Hein, ils ont buté mon chien, ils ont pété ma bagnole. Même si t'as pas de chien, t'as pas de bagnole, tu comprends que ça se fait pas. Et puis aussi je crois que ça touche tout le monde parce que comme d'ailleurs dans Game of Thrones, qui est un des rares autres succès mondiaux de l'audiovisuel, ils misent sur une espèce de gloubi-boulga esthétique qui à la fois ne veut rien dire et à la fois résonne de Bangkok à Nanterre. C'est-à-dire que la direction artistique, c'est absurde et génial. Les décors, c'est un mélange entre une espèce de duty-free luxe à l'aéroport de Hong Kong et une boîte de nuit slovaque, tu sais, un endroit où tous les mecs portent des chaussures trop pointues comme ça. Les costumes, je pense que c'est ce qu'un fan de Blink 182 mettrait à son mariage. Et le mieux, c'est la musique. C'est une espèce d'électro-symphonique celtico-macédonienne. Il y a plein de moments où musicalement, t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo de snowboard en 2002, tu sais, le moment du menu où t'as un personnage qui remue un peu sur place comme ça. Et dans le fond, t'as une espèce de soupe, genre tout, 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 tout. Et ben voilà. Ils inventent un truc hyper marrant. Mais le gros point fort de John Wick, évidemment, c'est son acteur principal, Keanu Reeves. D'ailleurs, mise au point nécessaire, on dit bien Keanu Reeves, tout comme Kanye West ou encore Leïla Kadour Boudadi. Ça fait 5 ans qu'elle ne dit rien parce qu'elle est polie, mais voilà. Alors, Keanu, c'est un acteur qui a signé des performances géniales dans notamment Point Break, Speed, Matrix et qui, une fois de plus, donne ici le type de jeu dont il a le secret, c'est de parler en chuchotant. Voilà, c'est le père Fouras, Oscar du rôle le plus inaudible. 2 heures. Le mec, il n'est pas du tout timide quand il s'agit de stranguler des Indonésiens, mais qui ne lui ont rien fait. Hein. C'est même pas Eddie, bonjour, ça va, la famille, la baisse, hop, direct carotide. En revanche, on ne l'entend pas du film. Sur une terrasse, Keanu Reeves, c'est le mec qui reste 2 heures assis avant d'avoir une bière et qui est là, les yeux plissés. Excusez-moi. Il est génial dans ce film. Il y a juste un bémol sur Keanu dans le film.
Quoi ?
Mais c'est pas de sa faute. C'est qu'à un moment donné, il est censé parler russe. Et franchement, moi-même, je ne parle pas russe. Et pourtant, je sais qu'il fait n'importe quoi. Ça s'entend. Et ça, c'est un truc qui m'hallucine avec les grosses productions américaines parce que 9 fois sur 10, ils en ont rien à foutre que ce soit crédible. Ça vous rend pas dingue. T'es là, tout va bien, t'y crois. Et tout à coup, il y a Margot Robbie qui sort un truc genre « C'était la collier de mon père ». Et personne n'est là, cut. Alors on va la refaire, Margot, parce que tu fais de la merde, en fait. des films qui coûtent 300 millions de dollars. Ils n'arrivent pas à dégager 80 balles pour engager une consultante qui parle vraiment la langue. Il n'y a pas une actrice française à Hollywood qui essaie de percer et plutôt que de faire barmaid, elle pourrait venir sur le tournage une journée et dire, alors non, en fait, personne ne parle comme ça en France, ni d'ailleurs dans toute la francophonie. Non, puisque là, tu sonnes comme un fer à repasser qu'on aurait précipité dans une cage d'escalier, donc on va la refaire. Scène 12, 147e, action. Mais les Américains, ils sont pas tous sourds, c'est pas possible. Vraiment, quand DiCaprio, il fait des trucs genre, tu sais, ils sont censés jouer un personnage qui parle la langue et ils sont là, je ne leur reviens pas d'un Paris. Est-ce que vraiment tous les Américains dans la salle, ils sont là, oh my god, I had no idea he spoke French, I think he studied there. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais à part ça, voilà, c'est un film qui tabasse tout ça pour dire que ce soit pour John Wick ou une Palme d'Or, allez en salle si vous pouvez. Ça reste un des lieux de grande communion culturelle à travers le monde et c'est pas le Hila Khaled Boudadi qui va dire le contraire.
Mais
on est
non,
d'accord.
Merci,
Marina. La bande originale.
Merci mille fois. Camille Cotin et Jeanne Hérisson nous invitaient pour Mouche.
J'ai cru que tu avais dit Jeanne Hérisson.
Quoi, ah oui. Quoi?
J'ai cru que tu avais dit Camille Cotin et Jeanne Hérisson. Et je. Voilà.
C'est ça.
Jeanne Héry.
Oui,
son,
pardon.
Ok,
oui, oui,
d'accord.
Pardon.
Ah oui, mais... Et puis Hérisson, Mouche. Oui. Oula. Je suis fatigué. Ouais. Ça se voit?
Non.
T'es si gentil.
J'ai
la musique n'est pas la même que celle.
Non!
De la série.
C'est une création originale.
C'est ce que j'ai dit, donc c'est une libre adaptation ce que vous faites aussi quand même.
Ouais, bah quand même. Mais oui, mais c'est comme c'est très proche dans l'écriture, dans la dramaturgie et aussi dans la direction artistique générale. Mais c'est vrai qu'on on s'est un peu.
Vous avez juste échangé Barack Obama contre Benoît Hamon.
Et oui,
c'est
et
ça,
ouais. Tout à fait.
Alors, il faut le préciser, c'est-à-dire qu'elle se caresse en regardant sur Internet des images d'un discours de
oui,
Benoît Hamon.
Tout à fait. C'est-à-dire
la masturbation
aurait,
est
vous
présente
avez dit
aussi.
Hier, on va parler sodomie, vous auriez pu dire on va parler masturbation parce que c'est un personnage qui se masturbe beaucoup.
Oui, mais ça, on en parle tous les jours, donc c'est pas très original dans cette émission, alors que sodomie, c'est plus rare.
D'accord.
Convaincre des actrices comme Camille Cotin, alors sauf qu'elle, elle était déjà fan de la série, mais les autres, est-ce que c'était. Et d'aller en plus se servir à la Comédie Française, c'est au contraire une forme d'exutoire pour eux de se dire je vais me lâcher dans une série comme ça.
Oh ouais, je crois que
je le
dis d'autant plus, je suis vachement détendue de dire ça. Vraiment, la série anglaise est brillante et la partition générale était brillante. Moi j'ai eu la sensation de faire plutôt un travail de metteur en scène de théâtre, c'est-à-dire de prendre une très bonne partition et de reprendre une troupe de comédiens et de la réactiver, de la réanimer de l'intérieur. Et honnêtement, la matière, elle est hyper jouissive, je le savais. C'est aussi pour ça que j'ai accepté. Pour des comédiens, c'est hyper bien écrit, c'est hyper drôle. Et c'est vrai que c'est transgressif et tout ça.
Donc... Alors justement, la transgression, Camille Cotin, il n'y a aucun moment où on dit « ça, est-ce que t'es sûr? Est-ce que je le fais? Est-ce que... »
Non, non.
On est sans limite.
Ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, c'est qu'on parle donc de la sexualité de ce personnage, donc une sexualité féminine, certes particulière, mais on va vraiment très loin, il n'y a aucun tabou. Par contre, il n'y a pas de nudité du tout. Et je trouve cette dichotomie vraiment plaisante et pour le spectateur et pour l'interprète. Ça fait du bien en fait de parler vraiment d'une sexualité féminine, de la masturbation. C'est hyper rare les meufs qui se masturbent. Enfin, parce que vous parlez masturbation tous les jours, mais la masturbation féminine, c'est dingue. Mais les femmes enceintes, par exemple, on ne dit jamais que les femmes enceintes, elles passent leur vie sur YouPorn.
Ouais.
Non, c'est vrai.
Certaines femmes enceintes.
Mais beaucoup de femmes enceintes, en fait. Bon, okay. En tout cas.
Non, les femmes enceintes ont une libido.
Out.
Non, non, ok. On libido beaucoup plus importante que ce qu'on imagine.
Absolument.
Ça, c'est vrai.
Mais en tout cas, ça pour dire que par contre, des femmes nues au cinéma, ça c'est vraiment très, très, très commun et très fréquent. Donc là, voilà.
C'est une femme qui se met à nu sans être nue.
C'est une femme qui se
Exactement.
Met à nu sans être nue et c'est très agréable. Voilà.
Et j'imagine quand même que la scène du toucher ma mère avec le docteur était particulière à faire, non? Parce que c'est un moment extrêmement drôle, où vous partez dans un fou rire parce que vous êtes chatouilleuse et parce que vous allumez un tout petit peu le docteur qui, lui, doit garder son sérieux.
Oui.
Ça s'est pas fait en une prise, c'est pas possible. Lui, il a dû craquer l'acteur
non,
en riant.
Non, pas tant que ça,
non
en fait.
C'est
non,
tellement
non,
drôle.
Non.
C'est tellement drôle. Ouais, puis, vous êtes tellement naturel dans le côté. Ça
Merci beaucoup.
Ça me chatouille. Et...
Mais non, en fait, ça s'est c'est pas fou. Fait.
Non, c'était assez concentré, mais comme tout le reste du truc. Mais tant mieux si on dit ça.
Ouais, non, ça fonctionne. Ça s'appelle Mouche et c'est à partir du lundi 3 juin, deux épisodes par soir.
Trois
épisodes par soir.
Trois par soirée. Parce que ce sont des épisodes de 30 minutes.
C'est vrai, ça passe vite, ouais. Ça passe trop vite. Et ça sera donc à partir de 21h sur Canal. La bande originale de Camille Cotin et Jeanne Herry commence en 1990. Camille Cotin, vous écoutiez.
That's me in the corner.
Ah ouais, moi aussi.
Losing my religion. R.E.M. Vous pensez comme ça ou pas?
R.E.M.
Ok, Marina. Vous entendez cette musique, ça vous fait penser à quoi, Camille?
Oui, quel endroit, Londres, Capital FM à Londres. Elle passait beaucoup,
la radio,
beaucoup. Et il se trouve que c'est une des chansons préférées de mon conjoint et qu'il y a toujours un moment en fin de soirée où on va écouter.
Losing My Religion.
Ouais.
Degré de force.
Degré de force.
Et 90, Camille, c'est votre premier passage à la télévision. Est-ce que vous vous en souvenez? C'était sur la 2.
Ben, bien sûr, c'était un contest. On faisait un concours, on devait rapper. Enfin, rapper, c'est hyper prude de dire ça.
Mais scratcher. Scratcher avec la bouche.
Ouais. J'étais tout en jean et je faisais.
Ouais, Human Beatbox.
Mais je veux voir. Et comment vous êtes retrouvée là-dedans, en fait?
Je crois que c'était le père d'une copine qui produisait l'émission. J'adore le truc, alors je crois, qui est hyper précis. Si mes souvenirs sont bons, la fille s'appelait Elsa Gaffier.
Et vous ressembliez à quoi? C'était quoi le look de Camille Cotin?
Je crois que j'étais tout en jean avec un bandana. Je m'étais mis un bandana sur la tête et j'avais pas gagné. J'étais hyper triste.
Mais vous avez vécu en Angleterre, hein, c'est ça?
5 ans, ouais. De 12 à 17 ans.
Et l'humour anglais est vraiment... comment vous le définiriez de votre point de vue, l'humour anglais? Celui qu'on retrouve justement dans Mouche. Ouais.
Je pense que les Anglais s'autorisent beaucoup de choses. Les Anglais vont très loin et qu'il y a une dimension, moi, qui me plaît énormément, même pas que dans l'humour. Mais oui, j'aime vraiment profondément l'humour anglais.
Ce côté de nos limites que l'on avait un tout petit peu en France, où là maintenant il y a de plus en plus de limites avec il ne faut pas vexer telle communauté, il ne faut pas vexer telles origines, il ne faut pas...
Non mais ça moi ça me dérange. Non, je pense que maintenant il faut réfléchir un petit peu, on nous demande de réfléchir au message que ça envoie, ouais. Et plus juste de se dire bah tiens ça me fait rire, oui ouais. Mais en fait si ça envoie un message qui est dégueulasse, bah, on s'abstient et ouais. On essaye de...
Et ça en Angleterre.
De penser ça. Mais je pense qu'en Angleterre, ils sont un peu plus évolués que nous en termes de mixité en Angleterre, je pense aussi.
Carrément,
mais je sais plus quelle était
non,
la question.
Non, mais ils sont hyper. C'est vrai que c'est les plus débridés avec le plus de tenue. Ils ont un cadre.
Ouais, c'est ça.
Ils sont hyper débridés, mais pas dans la forme. Ils sont hyper précis, c'est très affûté, comme la série d'ailleurs Fleabag. Original.
Non, mais même dans les fringues, c'est-à-dire quelqu'un de totalement déluré à Londres va se balader. Ouais. Personne ne se retournera. Ouais. Le regardant en disant mais comment il est fringué, comment il est coiffé, alors que...
Alors que ça, toi, qu'est-ce que tu t'en prends
en France? Non, mais
qu'à côté de ça, ils ont un civisme, mais largement au-dessus du nôtre. C'est-à-dire qu'en Angleterre, si vous mettez un peu à gauche sur les escalators alors que tout le monde est à droite, ils deviennent fous, les mecs. Jamais tu grilles une queue. Enfin, ils sont hyper éduqués à ce niveau-là. Et en même temps, à 17h, le vendredi, les pubs, mais c'est une folie furieuse.
Ils sont
tous en costard, ivre mort. C'est cette dichotomie. J'adore ce mot.
Ouais, c'est vrai. Il y a de la dichotomie, quoi.
Jeanne et Rivou, vous écoutiez dans les années 90.
On choisit pas ses parents, on choisit
89,
pas sa famille.
Bah, venant de vous, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille.
Pas non,
vous avez pas pris ce message par hasard. Vous avez quelles
Sauf
images?
Sauf que moi, je dirais quelle chance j'ai eue.
Bah voilà, non mais alors...
Et on revient.
Grattons un tout petit peu. Pourquoi vous avez choisi Maxime Forestier cette chanson?
En fait, je me souviens très bien que j'aimais beaucoup cet album quand il est sorti. C'est vrai que j'ai été baignée de chansons françaises et depuis petite et que Maxime Le Forestier est arrivé en comeback avec cet album et qu'il est génial et que j'adorais, je trouve ça très très émouvant, j'aimais tout l'album.
Puis il est passé à la maison, j'imagine.
Et puis en plus c'est vrai que c'est un proche de mon papa,
Julien Clerc.
Voilà, tout à fait. Et après c'est un chanteur que j'aime beaucoup 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 et c'est un très très grand interprète et voilà, je l'admire beaucoup.
Et on vous retrouve avec un mauvais acteur, Louis Malle, donc.
C'est un grand réalisateur qui joue mal.
C'est Milou en mai. Un tournage qui dure tout l'été.
Ouais.
Quel souvenir d'enfant vous avez? Parce que j'imagine qu'à la rentrée scolaire, on retrouve les copains et l'été n'est pas exactement le même. Est-ce qu'on se sent différent, privilégié ou on n'en a pas conscience?
Si, probablement. Ouais. Mais ça se passait l'été et... Et ça, on était dans le Gers, et je me souviens que moi j'aimais déjà beaucoup l'été et que j'adorais les arbres fruitiers et tout ça. Et de loin, j'ai vu sur le tour, on tournait dans une grande propriété et j'ai vu deux cerisiers exceptionnellement beaux. Et là, je me suis précipitée. Et là, c'était le cinéma parce que c'était que des fausses cerises. Mmh. Et je me suis dit, ah d'accord, c'est ça, comme il n'y avait pas d'écrevisses dans le sac. Et comme, mais il y avait quand même une ambiance d'été. Et puis j'étais avec ma maman. C'était un très bon souvenir.
En 2012, Camille Cotin, vous écoutiez. Daft Punk
et Julianne Casablanca.
Julianne Casablanca, pardon. Là, cette musique-là, c'est une BO, vous la choisissez pour...
Non, je l'écoute encore. J'ai énormément écouté cet album je l'écoute encore. Je crois que je l'ai écouté encore ce matin. je m'en lasse pas et j'adore Julianne Casablanca. Vraiment, j'en suis fan des Strokes et j'adore Daft Punk, donc cette union me plaît beaucoup.
Et on est en 2012, Camille, c'est la révélation connasse. Finalement, c'est un personnage...
C'est le titre, hein, pour ceux qui ne savent pas encore. Hein.
Il n'y a pas de règlement de compte autour de la table.
Le mec, il ne sait pas qui est l'invité.
C'est une révélation, je vais expliquer. Connasse.
c'est un programme court, Connasse, donc écrit et réalisé par Noémie Saglio et Héloïse Lang. C'était diffusé sur Canal+. Et là, on a déjà un personnage complètement désinhibé, un peu vachard, en tout cas, qui... Oui.
C'est le moins qu'on puisse
dire.
Oui,
c'est ça, j'atténue un tout petit peu, qui me fait penser un peu à Mouche, quoi. Je trouve que ça vous va comme un gant.
Ouais, moi j'ai toujours du mal quand on compare, parce qu'on m'a dit, bah alors Andrea dans 10%, encore une connasse. Ensuite dans la rue, on m'a dit, ah bah tiens, Rose, encore une connasse. Donc la Mouche, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, je vois pas le...
C'est vous, non, c'est fait. Dans le côté désinhibé, en tout cas. Dans le côté...
C'est moi, c'est un formidable
qui
personnage,
tout,
mais
qui
elle est complètement monochrome. Elle n'a qu'une...
Ouais,
oui, finalement, elle n'a qu'une...
Face. Non, mais
c'est une connasse.
En fait, non, mais la comparaison vaut pas pour tous les aspects, en fait. Elle vaut juste...
Elle vaut juste pour le côté transgressif.
Côté transgressif et désinhibé.
Mais sauf que Connasse, on dirait qu'elle provoque sans savoir qu'elle va provoquer.
Connasse
que Mouche
se fout complètement des gens qui l'entourent.
Ouais.
Ce qui n'est ni le cas d'Andréa, cas de Rose, ni le cas de Mouche. C'est vraiment quelqu'un qui n'a aucune conscience de l'autre. Et puis c'est un faux... Enfin, Connasse, c'est un personnage, mais c'est un clown, c'est de l'essence de personnage. Mais voilà, après, Mouche, effectivement, s'autorise... oui, effectivement, dans la façon dont elle ne se censure pas, peut-être qu'il y a
pas de filtre.
Mais en même temps, ce qui est très étonnant dans ce personnage de Mouche, c'est qu'elle elle donne l'impression qu'elle dit tout et en fait elle ne dit rien. C'est ce dont on s'aperçoit au fil de la série,
pas l'essentiel,
ce qui est si captivant et troublant aussi.
Jusqu'à la fin où tout explose, on comprend. Jeanne, Eric, vous écoutiez. Woodkick, là, il faut m'expliquer alors.
Ah oui, bah bon. En fait, c'est plutôt cette chanson en particulier que j'ai écoutée. Et en fait, je ne l'ai pas écoutée vraiment à sa sortie. Je l'ai écoutée un peu plus tard, pour dire la vérité. Et c'est devenu une chanson un peu guerrière que j'ai écoutée quand j'étais en prépa de film. Je partais sur mon vélo le matin. Il y avait un truc un peu guerrier. Ouais. Et du coup, elle est très cinématographique, cette chanson.
Ah, et là, un truc à dire peut-être.
Non, je pensais en 2013, on vous retrouve à la mise en scène de deux spectacles avec la comédienne Aude Léger. Vous vous souvenez? Poule.
Tout à fait.
Chair de poule. C'était pas votre première fois en tant que metteuse en scène, parce qu'il y a eu une grande, grande liste. Enfin, moi, je découvre aussi ça.
Grande liste. Il y a cinq trucs, quoi.
C'était Avignon.
On était à Avignon. On a fait deux Avignons avec un spectacle qui s'appelait Chair de poule, effectivement, avec Aude Léger, écrit par Maëlle Piriou. Moi, j'avais découvert la mise en scène au Conservatoire de Paris quand j'étais élève là-bas. Et après, en sortant, j'ai fait quelques trucs et c'était la découverte d'Avignon.
Alors c'est quoi pour vous Avignon maintenant, avec le recul?
Beaucoup d'affiches à terre que les gens piétinent.
Carrément, ouais.
Ah ouais. Ah bah là c'est incroyable. Je sais pas combien de milliers de spectacles,
1500 au moins,
tous les jours avec des gens qui tractent tout le temps. C'était pas mon exercice préféré dans la vie. Et en même temps, Camille a beaucoup beaucoup de souvenirs de d'Avignon où elle allait prendre, des acteurs pour les emmener de force dans la salle.
Les spectateurs.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Les acteurs aussi à la fin.
Oui, allez, s'il te plaît, il en reste deux. Sois pas con. Mais oui, c'est à la fois des bons souvenirs et en même temps, fatigant, je dirais.
Bon. Oui, mais
éprouvant.
Ensuite, avec une expérience dingue quand on sort de ce genre d'épreuve.
C'est vrai.
Richard Mento, merci de venir à ce micro. Vous êtes professeur de philosophie, auteur de Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique aux éditions La Découverte. Ouais. Justement, puisque c'est l'un des sujets de cette série Mouche, le numérique a un impact sur la vie amoureuse? Enfin, ça, c'est pas le sujet de Mouche. Hein. C'est la vie amoureuse. Mais est-ce que le numérique a une influence?
Oui, on peut rater sa vie sans aller sur les applications. Mais en même temps, ce qu'il y a d'intéressant dans les applications qui sont quand même assez souvent utilisées par tout le monde,
celle de rencontre.
Voilà, celle de rencontre. Ouais. C'est qu'on croit qu'on va réussir à trouver quelqu'un facilement parce qu'elles ouvrent des promesses formidables.
Quoi. Mais ça marche.
Quelqu'un. Ça marche.
Je crois, non?
Je crois aussi. je pense que ça marche. Mais moi, globalement.
Je rencontre plein de gens qui me disent on s'est rencontrés sur Internet ou via telle application. Après, il y a ceux qui n'y vont que pour consommer.
Ça marche. Mais après, quand on regarde le temps passé sur l'application concrètement, on se rend compte qu'on est globalement un peu des losers. C'est-à-dire que la plupart du temps, on échange sans obtenir tout de suite de réponse ou même de rencontre effective.
Donc, alors, revenir au sexe.
C'est ça qui est génial, c'est qu'on est vraiment tous des losers à cause de ces applications.
Le sexe sans sentiment, ça a toujours existé. Non, c'est pas spécialement le numérique ou les applications qui a apporté ça.
Avant, il fallait aller dans des bordels. Enfin, c'était quand même une autre institution, quoi.
L'alcool dans la rue sans aller dans un bar.
Non, c'est vrai, mais ça pose des problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous dites à quelqu'un, ouais, mais je vais coucher avec toi, mais complètement bourré.
Ouais.
Je pense que ça pose des problèmes qu'on arrive à reconnaître maintenant après MeToo et après d'autres sensibilisations, mais on peut pas coucher comme ça totalement innocemment en étant bourré et en se disant tout va bien se passer.
Si.
Donc ouais.
Eh ben, bonne ça chance. Entendu
Pardon. Bonne chance. Ouais. Non, mais il y a quand même ça, c'est-à-dire qu'au fond on est maintenant un peu plus conscient et obligé d'être conscient parce que les applications nous forcent à rationaliser extrêmement ce qu'on est en train de faire.
Oublions les applications, revenons à la notion de amis uniquement pour le sexe, sex friend. Je sais pas s'il y a une traduction qui a été faite.
Mais non, mais en fait déjà sexe
français.
Ouais, sex friend c'est déjà très en réalité c'est du
plan cul, non?
Ouais, en réalité les Anglais diraient fuck pareil, buddy ou diraient autre chose.
Amis de sexe.
Mais sex friend c'est déjà pour les Français, c'est l'anglicisme pour les Français, mais ça veut dire ce que ça veut dire, que en fait l'amitié c'est ce qui est avant l'amour parce que ça permet quand même de gagner une certaine confiance, c'est aussi ce qui est après l'amour. Parce que, au fond, quand vous êtes avec quelqu'un, passez les 2 ans de shoot de sérotonine, si vous pouvez pas vous saquer, vous allez pas construire un couple durable, quoi.
Est-ce que c'est symbolique d'une génération, cette notion de sex friend? On se voit uniquement pour avoir des relations sexuelles et on n'a pas de sentiment autre que celle de l'amitié ou du copinage, mais on va pas tomber amoureux.
Mais c'est une génération qui a compris ce qu'ont fait les autres avant. Parce que, en fait, on veut plus foncer sur quelqu'un en prétextant qu'on est amoureux et dire oui, c'est le feeling, alors je vais te sauter dessus, ça peut plus marcher. Et moi, je trouve qu'évidemment, c'est une génération, mais c'est la génération qui a compris ce qu'était le porno, qui a un petit peu compris aussi ce qu'était la sexualité après le sida. C'est-à-dire qu'on est obligé de poser, par exemple, la question de la capote, des dépistages. Et ça, après tout, moi, je trouve que c'est globalement bénéfique. C'est-à-dire, on est des losers, mais des losers vertueux.
Est-ce que c'est la parole féminine aussi qui se libère? C'est-à-dire les femmes qui prennent en main leur, sans mauvais jeu de mots, leur sexualité et leur plaisir en disant moi aussi, je veux jouir, je veux avoir du plaisir. Et je le dis, et je vais croquer des mecs.
Calme-toi, Nagui, on a compris, c'est bon.
Comme des mecs, mecs pouvaient le faire avant avec les femmes. Avant, les hommes qui disaient ça, c'est Don Juan, et les filles, c'est les salopes, celles qui...
Non, bien sûr, il faut être deux de toute façon. Mais au fond, ce qui a vraiment changé, en revanche, c'est qu'on ne peut plus traiter... C'est vrai, mais on ne peut plus traiter juste quelqu'un...
Bienvenue.
Innocemment, justement, de salope. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le slut-bashing, qui est quand même très, très, très répandu, ne fait plus le même effet. Avant, ça pouvait passer pour une sorte de preuve de sa virilité, puisqu'on traitait tout le monde de salope, ça prouvait que nous, au moins, on n'était pas comme eux, comme elle, pardon. Mais maintenant, c'est quand même intéressant de se dire, bah oui, le slut bashing, il est identifié. Et comme il est identifié, je pense que l'étape suivante, c'est de dire, c'est vrai que finalement, elles sont pas juste elles seules à être des salopes, entre guillemets, mais on l'est tous un peu. Parce qu'une salope n'est pas toute seule. Donc, il faudrait qu'on prenne collectivement, en quelque sorte, le stigmate de la salope et se dire, OK, peut-être qu'on a aussi un petit peu participé à tout ça et qu'on en fait partie.
Ça, ouais. Sex Friends, comment rater sa vie amoureuse ou bien rater sa vie amoureuse, le bien est entre parenthèses, à l'ère numérique aux éditions La Découverte. Merci, cher professeur de philosophie, Richard Mento, d'être venu à ce micro. Benoît Hamon, qui est dans la série Mouche sans le savoir, peut-être, a le blues, vous dites Tanguy Passion.
Oui, il est abattu, il a les oreilles baissées comme un cocker. S'il passe comme ça devant la madrague, Brigitte Bardot va lui préparer une gamelle. Si sa liste ne fait pas 5%, il a dit hier, je cite, j'en tirerai des conséquences personnelles. Ce qui ne veut rien dire. On tire des conclusions dont découlent éventuellement des conséquences. On est sur France Inter, il faut être précis.
Bravo. On en parle après les infos. À tout à l'heure, Nasser. La bande originale avec Léa Kadobouzadine.
Bonjour à tous.
Marina Rollman. Daniel Morin, Tanguy Bassureau, Tom Villa et nos invités Camille Cotin et Jean-Louis. Nous parlons de cette série Mouche qui est indescriptible parce que elle n'a jamais existé dans le paysage français, qu'il y ait des scènes aussi drôles, aussi rapides, aussi trash, avec aucun filtre. On a l'impression, venant de n'importe qui, et puis un casting de dingue. Encore une fois, je trouve que les acteurs, les actrices sont parmi les meilleurs pour jouer, et encore plus, alors évidemment, au-delà du plaisir d'être acteur, je me suis chaque fois demandé, en voyant le générique en plus, et avec tout le respect que je dois à Camille Cotin, de voir des comédiens du français qui viennent, je me dis mais comment se permettent-ils? Évidemment, c'est le métier d'acteur de
tout
jouer.
Laverne, il a quand même la connerie dans l'œil. Hein. Il adore.
Oui, c'est vrai. Mais je ne connaissais pas, par exemple, Suliane Brahim.
Qui joue Electre en ce moment, odieux, c'est tout ça.
Voilà.
Et qui
se retrouve avec un Godemiché à la main à côté de sa sœur, jouée par Camille Cotin.
Parce que la série, c'est beaucoup plus que ça. Enfin, c'est pas une gaudriole autour d'un Godemiché.
J'entends.
Et puis bon appétit,
pardon.
Non, mais c'est un. Il y a un esprit. C'est d'une finesse et d'une intelligence. Moi, je trouve en tant que spectatrice redoutable.
Et d'une sensibilité,
c'est un texte,
parce que ce qui est vécu.
Ce que disait Jeanne, c'est que c'est un des plus grands auteurs contemporains, cette femme.
C'est une super auteure. C'est aussi pour ça c'est pour faire découvrir son travail qu'on a repris aussi son travail là. C'est vrai qu'il y a un regard, il y a quelqu'un qui nous livre sa vision du monde. C'est ça, un auteur. Et une vision qui est hyper singulière, hyper drôle. Et moi, j'ai été chercher pour entourer Camille, qui est une formidable actrice, hyper précise. Et justement, alors là, le rapport abandon-maîtrise est hyper bien dosé. Et donc, autour de ça, il fallait des gens très, très, très précis aussi. Mmh. C'est une partition où il n'y a aucune place pour l'improvisation. C'est impossible.
Il faut Jean Finesse, c'est-à-dire que n'importe quel jeu un peu trop lourd viendrait gâcher tout ça.
Et en même temps, il faut incarner ça à fond et y aller
et
à fond. Et moi, je trouve qu'au français, il y a des acteurs merveilleux, hyper drôles. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y en a deux. Il y en a deux issus de cette très, très jolie troupe.
Est-ce que vous avez suivi des refus, d'ailleurs?
Mais non, mais il y a eu des essais. Hein.
C'était chaud. Il y a eu 1000 castings.
J'adore ce qu'il y a qui nous voit à la porte du français. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Non, il y avait des essais. C'était... En plus, c'est deux personnages où on a fait celui incarné au final par Benjamin Laverne et par Suliane Brahim. Benjamin, pour tout dire, était mon idée première pour le rôle, mais on pensait qu'il n'était pas libre. Du coup, j'ai fait des castings très, très, très. J'ai plus 50 ou 60 personnes.
Ouais.
Et pareil pour le rôle de la sœur de Camille, qui est un rôle très important et difficile, je pense. Au départ, je m'étais vraiment dit, il faut vraiment qu'elle se ressemble physiquement. C'était important pour moi. Et au final, j'ai pris une actrice qui ressemble pas du tout à Camille. Comme ça, j'avais bien réussi. Mais il se trouve que Suliane s'est imposée au fil des essais, parce qu'il y en a eu plusieurs. Elle était vraiment, vraiment exceptionnelle.
Ouais, deux frangines qui partent de loin, parce qu'elles arrivent même pas à se faire un câlin, un bisou, ou à se prendre dans les bras.
Ah oui, la proximité physique est assez compliquée pour.
Parce que c'est pas dans la culture de la famille.
Et même dangereuse, quelquefois, de vouloir faire un câlin à la sœur.
C'est vrai.
Même dangereux.
Voici Tanguy Passion. Tanguy, vous êtes parfois cruel, vous le savez.
Oui, Nagui, puisque l'humoriste, globalement, est une ordure. Hein, moi en particulier, puisque je m'acharne sur des personnes. Prenez Eddie de Préto, ce chanteur triste qui ne demande qu'à être aimé. C'est pour ça qu'il chouine, pour qu'on lui dise « Bébé, t'es moins joyeuse qu'un bilan sanguin, mais viens, on va se consoler ensemble en se mouchant l'un l'autre dans notre haute survette. » Que pense-t-il quand à l'écoute de France Inter, il se tombe sur un moment où je me moque de lui, bah c'est-à-dire voilà. Trop souvent. Il doit être brisé, telle une pâte à tarte, à tel point que ses proches le recoupent certainement de quetch avec une base de confit-pot. De même, Ariel Dombal, dont j'ai dit ici qu'elle était plus con qu'une fraise, ce qui m'a valu des menaces de mort émanant de la mairie de Plougastel. Mérite-t-elle vraiment ça? Non. Elle se tape déjà toute la journée. Bernard-Henri Lévy, le vieux beau à grosse mèche, qui quand elle lui dit « Viens dans la piscine, chérie », répond « Non, je préfère rester sur le bord, au moins je me vois dans l'eau. » Sa vie est dure, et moi j'en rajoute. Oui. Mais l'humoriste est un déchet humain, symptôme d'une société malade. Parce que si tout allait bien, les gens paieraient pas 40 euros pour voir un type qui tente de les faire marrer. Non, le samedi soir, ils resteraient chez eux, devant un DVD de Michael Haneke, dans lequel Isabelle Huppert se tranche les veines en écoutant le requiem allemand de Brahms joué à la flûte à bec par son neveu Kudjat. Si les gens étaient heureux, ils survivraient à ça. Mais non, ils ont besoin de nous, les humoristes, qui défonçons des innocents pour le plaisir. Quand je pense au mal qu'a fait Daniel Morin au Balkany, de courageux entrepreneurs qui ont investi aussi bien à Marrakech que sur l'île de Saint-Martin, au point que la chaîne Voyage diffuse leurs portraits derrière de vieux épisodes de J'irai dormir chez vous. Le programme sur les Balkany, ça s'appelle J'irai dormir chez moi. J'ai envie de dire que Daniel est comme moi une crevure. Parce qu'il y a aussi une troisième personne dont je me moque, Benoît Hamon. Je passe ma vie à dire qu'il est aussi seul que François Langlais dans le showroom Franck Provost. Alors même que Hamon ne fait de mal à personne. On le voit peu quand France 2 l'invite à l'émission politique et le font passer en 16e partie d'émission à 2h45 du matin. Il n'y a que les zonards qui rentrent chez eux défoncés qu'ils voient. Chez les gens de la night, il est à 80% d'intention de vote. Et pourtant, il a des idées originales. Le revenu universel, par exemple. Le fait que tout individu, juste parce qu'il existe, ait le droit d'avoir un peu d'argent pour subsister. Alors certes, potentiellement, c'est la fin de la Java bleue, hein, parce que les joueurs d'accordéon ne vont plus aller dans le métro pour gagner 40 balles la journée. Mais enfin, c'est novateur. Hamon souhaite aussi taxer les robots. Hein, normal, ils volent nos jobs, ces enfoirés. Et personne ne dit rien. Mais pour ma génération, ça se voyait déjà dans Ulysse 31. Ulysse, il était noyé sous les charges. L'URSSAF, il n'arrivait plus à embaucher de compagnons. Mais Nono, le petit robot, lui, il était cool, il dansait. Tu veux un petit clou, tranquille. Mais j'aurais aimé qu'il crève d'un coup de tournevis, ce pourri. Et ben, malgré ces propositions qui placent Benoît Hamon dans la posture du candidat du 23e siècle, sa liste européenne, Nagui, ne décolle pas.
Et alors, vous me dites que hier, sur France 2, il a menacé de mettre fin à sa carrière.
Oui, c'est normal, parce qu'au bout d'un moment, à force de se prendre des tôles, il va pouvoir construire un abri de jardin. Là, il est à 3% dans les sondages. Forcément, à gauche, ils sont 4 candidats pour un électorat qui n'existe plus une fois passé la porte de Radio France. Et hier, il a dit, si ma liste ne fait pas 5%, j'en tirerai les conséquences personnellement. Ça veut dire qu'il va disparaître. Alors que le WWF ne l'avait même pas mis sur la liste des espèces menacées. Enfin, autant au Kenya, les ânes sont massacrés parce qu'ils sont utilisés par la médecine traditionnelle chinoise, autant aucun Chinois n'a jamais élaboré un remède à l'eczéma à base de peau ou de poils de Benoît Hamon. Donc, il nous fait une Jospin. L'autre, quand il avait perdu, s'était barré à l'île de Ré, hein, où il vit toujours dans un trou dans le sable. Hein, parfois, des enfants creusent, d'un coup, ils sortent. Ah, c'est très effrayant. Hein, ça rappelle The Walking Dead, mais avec quelqu'un de moins frais. Or, personne n'a envie de voir disparaître Benoît Hamon. Il est mignon, il a une belle voix grave, on a déjà perdu Barouin. La seule à en profiter, c'est Michel Larocque. Et de manière très égoïste, vous, Nagui, qui êtes l'ami des stars, jamais elle ne vous envoie un SMS disant « passe à la maison, je te le prête pour un quart d'heure ». En tout cas, on n'en sait rien. Non. Et puis Benoît Hamon, s'il arrête la politique, casse notre système électoral, qui veut qu'on se présente jusqu'à ce que ça passe. Regardez Mélenchon, en 2040, il sera toujours en train de compter les voix qui lui manquent pour gagner. Lui, c'est les chiffres et les lettres. Hein. Laissez tomber au bout de 2 échecs. Benoît, oh, ça ne se fait pas. Chirac a fait 2 campagnes présidentielles avant que ça marche à la 3e. L'idée de génie, il s'est mis à boire au pied de la vache en parlant de pommes. Et les Français, la nourriture, ça les touche. Laurent Mariotte de Petit Plat en équilibre, si vous voulez bien se sortir les doigts du cul de la pintade, a 10 fois le potentiel pour être président en 2022. Donc à mon niveau, j'ai sans doute nuit à la candidature Hamon, en le critiquant là même où se situe son socle électoral. Alors sachez que je le regrette. De même qu'Eddie de Préto est un bon chanteur, Ariel Dombal n'est pas si con, elle est juste différente. Eh bien Benoît Hamon est un mec qui mérite de rester, ne serait-ce que parce que je n'ai pas fini de me foutre de lui. Oui, je suis humoriste, je suis une ordure.
Merci Tanguy Passion. La bande originale, Nagui. Sur France Inter. Benoît Hamon présent donc dans la série Mouche, puisque Mouche fantasme sur Benoît Hamon. La réalisation aussi est une forme d'écriture, une forme d'humour en fonction du plan, du cadre que l'on a, la vanne et appuyer, ou même la vanne peut être dans le montage ou dans le cadre.
Bien sûr, faut aller chercher. Là, c'est vraiment une mise en scène très très simple, qui reprend aussi les codes de la série anglaise, qui est complètement mis au service des acteurs, parce que en fait, il y a quelque chose qui est inscrit de la réalisation, qui est inscrit dans la partition même écrite, qui sont ces fameux aparté caméra dont nous parlions, qui est que du coup, pour aller recueillir toutes les confidences de Camille et tout ce qu'elle nous dit, tout ce qu'elle nous livre, bah on peut pas faire trop le malin avec sa caméra autour d'elle. Il faut poser sa caméra et attendre que ça soit elle. C'est ça l'effet de mise en scène principale, c'est elle qui se tourne vers nous tout le temps, et je pense que ça fait partie de dispositifs extrêmement ludiques et simples. Moi, c'est plutôt mon habitude de mettre la mise en scène au service des acteurs et des personnages. Donc,
et le cadre, on en parle, il y a une phrase peut être prononcée, si elle est filmée en gros plan, ça donne juste une phrase prononcée. Si on voit dans quel cadre ça se passe, en l'occurrence un enterrement, ça n'a pas le même sens.
Ça devient drôle.
Ça devient drôle, ça devient très drôle. Il y a eu, et vous, Camille Cottin, vous disiez tout à l'heure que Jeanne Herry avait rajouté des scènes et des séquences.
Deux, trois par épisode à peu près.
Alors, puisque vous êtes en contact l'une et l'autre avec Phoebe, il faut demander l'autorisation dans ces cas-là. C'est une, on dit libre adaptation, mais en même temps, est-ce qu'on a le droit ?
Oui, parce que je pense que c'était inscrit dans le contrat de départ. Oui, quand on adapte, on a le droit de... Après, ils ont demandé à lire, la production a demandé à lire, puis avoir des rushs, parce qu'ils voulaient voir si on faisait pas trop de la merde. Et puis...
Et puis c'est passé.
Et puis ça va, je crois.
Et alors, vous avez ressenti, Jeanne, le besoin, justement, d'en rajouter ?
Au départ, j'en avais pas le besoin parce que je trouvais que c'était parfait, moi. Donc, j'avais rien envie de rajouter. Je voulais juste trouver les bonnes correspondances. Je voulais que, comme on sent que ça sonne très très bien en anglais, je voulais que ça sonne très bien en français. Je voulais pas qu'on se dise, tiens, on dirait un truc qui se passe chez nous, mais ça se passe pas vraiment chez nous. C'est bizarre.
C'est pas le cas, en tout cas. Ça s'est réussi.
J'espère. Ouais, merci beaucoup. Donc, fallait que musicalement, ça sonne bien, qu'on trouve les bonnes correspondances avec Paris, voilà, les décors, les costumes, la façon de parler, les liens. Après, pour moi, c'est pas tant une série, qui raconte la culture anglaise ou l'Angleterre, qu'une série qui raconte très bien notre époque. Et comme l'époque produit les mêmes effets à peu près partout en Europe et dans le monde occidental, sur la difficulté, voilà, l'hystérisation un petit peu des liens, tout ça. Puis la difficulté de se parler au sein des familles, je pense qu'elle est universelle et qu'elle est... Donc voilà, juste trouver les bonnes correspondances.
On voit bien Daniel Morin avec Mouche. On voit qu'on arrive enfin à adapter des séries étrangères et brillamment comme le fait Jeanne Herry. Alors ça demande du travail. La remise en contexte, il faut lui donner une âme, l'âme française, comme a dit, ou universelle, sans perdre la signature originale. Et moi, j'ai envie de dire cocorico, vous voyez, quand les Français...
Ah ! Allez, poule ! Oh, si seulement je pouvais faire pareil avec vous, monsieur Guy. Vous jetez en l'air et d'un coup de fusil millimétré, vous explosez la tronche.
Rêve, hein.
Quel bonheur ce serait, oui, j'en rêve. Ce serait encore mieux si vous retombiez au sol toujours vivant. Ah, là, je dirais, il est... Regarde, il bouge encore. Achève-le à coup de talon. J'en rêve, j'en crève, monsieur Guy. Si vous saviez comme je vous déteste. Et qu'en France, on sait adapter des séries étrangères, nanana. Et qu'il faut lui donner une âme, ni. Et qu'il faut garder sa signature, gnu. Et c'est un analphabète pervers basané qui me parle de signature, d'Axe et de la France. Mais où va-t-on, nom de Dieu? Alors, même si je dois reconnaître que, pour ce qui est de piquer des choses à l'étranger, vous n'êtes pas mal, hein. Parce que votre femme vient d'Angleterre, votre drogue de Colombie, vos fringues de Roumanie et vos chaussures de l'enfer. Mais bon, faut peut-être pas exagérer non plus, mon petit bonhomme. Et puis concernant les séries étrangères, hein, est-ce qu'on en a vraiment besoin? L'Angleterre a The Crown, on a Plus belle la vie. Les États-Unis ont Game of Thrones, nous on a Les Cordiers jugés flics. En Espagne, La Casa des Papel, et nous on a Le Tirage du Quesneau. Ah, trois chefs-d'œuvre que le monde des médias nous envie. Alors oui, monsieur Guy, ok, je reconnais, vous êtes aussi futé qu'une Julie Lescaut, vous êtes aussi imaginatif qu'un inspecteur gadget, aussi sexy qu'une Joséphine Ange Gardien, mais vous êtes aussi con qu'un Skippy le kangourou. Les séries, on n'en a pas besoin. Ce qu'il nous faut, c'est du suspense, des trucs comme Tout le monde veut prendre sa place, du challenge, style N'oubliez pas les paroles, mais aussi de l'épouvante avec Taratata. Alors aussi, disons-le parce que c'est vrai, un bon programme de cul, style Les animaux du monde. Et là, on est bien. Les séries, on s'en cogne, mon petit fumier du Caire. On s'en tamponne. Désolé, mais une fois de plus, mon tout petit monsieur Guy, vous avez dit...
N'importe quoi !
Absolument.
La bande originale avec Nagui.
Depuis le début de l'année, Camille Cottin, on a pu vous voir dans 3 longs métrages. Première Vacances de Patrick Cassir avec Camille Chamou, que nous recevrons bientôt à ce micro. Les Fauves de Vincent Mariette avec Lily Rose Depp et Laurent Lafitte. On revient à la Comédie Française. Et Le Mystère Henri Pic de l'excellent Rémi Besançon avec Fabrice Lucchini. Une année chargée en tout cas en long métrage. Et puis c'est pas fini puisque le Clapiche arrive au mois de septembre, ça arrive ?
Je crois, je sais pas, ouais, à peu près.
2 mois, Anna Girardeau, François Civil, François Berléand. C'est l'histoire d'un couple qui se croise sans vraiment se repérer, se comprendre, s'aimer. Enfin, ils passent l'un à côté de l'autre. Quel est votre personnage, à part l'histoire de la danse
Je suis la psychothérapeute d'Anna Girardeau. Et Berléand est le psy de François Civil. Et moi, j'ai un cabinet dans le 7e, on va dire. Et Berléand est un psy d'hôpital. Donc c'est deux cabinets différents, mais c'est des petites partitions, François et moi. C'est vraiment Anna et François Civil qui portent le film.
Le 30 octobre, vous serez dans Chambre 212, c'est un autre style ?
C'est complètement un autre style, c'est Christophe Honoré. Film de Christophe Honoré qui vient d'être présenté à Cannes dans Un Certain Regard, que j'ai découvert à Cannes et qui est vraiment un petit bijou. C'est un rêve, ce film.
Ah bah alors racontez-nous, faites-nous partager ce rêve.
C'est hyper dur à résumer. Pourtant, je viens de faire 2 jours de promo. Maria, le personnage qu'interprète Chiara Mastroianni, a été en couple depuis 25 ans avec Benjamin Biolay, Richard, donc. Et le film commence quand son mari s'aperçoit qu'elle le trompe allègrement, et ce, depuis
le début de l'histoire.
Voilà. Ouais. Et donc, elle part dans l'hôtel d'en face pour réfléchir. Ils se disputent. L'hôtel d'en face... face à leur immeuble, et elle va ranimer beaucoup de fantômes du passé.
Oui, puis elle a une vue.
Elle a une vue sur l'appartement. Voilà, et elle va animer beaucoup de fantômes du passé pour réfléchir et prendre une décision. Et donc, c'est une nuit. Le film en anglais s'appelle On a Magical Night. Donc, comme les Anglais ne connaissent pas Catherine Lara, c'était possible. En français, Nuit Magique, c'était moins bien. Mais voilà.
Ça tient à ça. J'avais même pas pensé, ouais. D'accord, ok, ça c'est fait. Et puis 10% continue ou pas pour vous, oui, j'imagine.
Ouais, impossible que ça. Saison 4 là, à l'automne.
Avec toujours autant de plaisir, c'est comme une troupe de théâtre qui se retrouve en tournée, c'est
absolument,
ça?
Absolument, ouais.
Et Les Éblouis, ça c'est un film de Sarah Succo avec Eric Caravaca, Jean-Pierre Darroussin. Quel personnage avez-vous dans ce film ?
C'est l'histoire d'une... Le film est centré sur une jeune adolescente dont la famille bascule dans une secte catholique qui est au milieu du village. Et voilà, et ça va raconter le parcours de cette adolescente pour essayer de s'enfuir de cette secte et de sauver ses petits frères et sœurs. Et je fais la mère.
On le voit, un emploi du temps extrêmement chargé, ça vous et puis vous avez un œil affûté puisque vous aviez vu repérer cette série avec via le conseil de votre sœur, ça vous donne envie de réaliser ? Vous avez dit que votre sœur allait réaliser.
Ouais. Non, je me sens pas du tout apte.
Mais c'est quoi qu'est-ce qui manque ?
Je pense j'ai pas le
C'est la technique, c'est la direction d'acteur,
c'est plein de choses, je sais que jouer pour moi c'est un besoin. Et que finalement, je me pose la question de ma légitimité quand je vois le résultat, souvent. Mais en tout cas, quand je l'entreprends, je suis toujours animée d'une envie qui fait que j'y vais.
Vous avez dirigé Camille Chamou.
Oui, j'ai dirigé Camille Chamou, mais Camille.
À ce micro pour en parler.
Mais Camille Chamou, c'est mon amie et je pense qu'elle m'a. Et par contre, en direction d'acteur, je prends beaucoup de plaisir à le faire et je me sens pas empêchée à ce niveau-là. Mais tout ce qui est de l'ordre de d'écrire un scénario, de la réalisation, d'un langage cinématographique, pourquoi tel plan plutôt que tel plan, et où est-ce que je vais mettre ma caméra, et le montage, et tout ça m'est très étranger.
Donc c'est plus la technique qui vous embête
Mais c'est pas de la technique, c'est vraiment la poésie filmer.
C'est une autre écriture.
Non, c'est une écriture. De décider, enfin, je veux dire, si on fait qu'un champ contre champ pendant tout le film, ça reste d'être vraiment très plat, mais c'est pas de la technique, c'est comment raconter une histoire par l'image. C'est l'essence même du cinéma. Et ça, je pense que j'en suis pas capable.
On a beaucoup parlé des comédiens du français, Suliane Brahim et Benjamin Laverne qui sont présents dans Mouche, Jeanne-Éry, mais ça vous a donné l'envie d'aller mettre en scène là-bas, à la Comédie Française.
Oui, on m'a gentiment invité à faire une mise en scène là-bas. Donc,
c'est génial.
Bah ouais, c'est génial. Voilà. C'est génial. Très très heureuse de revenir au théâtre.
Alors qu'allez-vous mettre en scène ?
Et oui, c'est ça. Et bien, ça sera au Vieux Colombier, au théâtre du Vieux Colombier, qui est un de mes théâtres préférés à Paris. En plus, ça va être une création qui s'appelle Forum au pluriel et qui se passe entièrement sur les forums d'internet. Donc là, il y a un collectif d'auteurs qui est en train d'écrire. Patrick Goujon, Maëlle Pirioux et Hélène Grémillon.
Donc vous avez accepté sans avoir lu la pièce finalement.
On m'a dit, et c'est un énorme luxe, viens et fais qu'est-ce que tu veux.
Vous avez dit ça comme ça?
Oui.
Ouais, il parle pas super bien français.
C'est la force.
Bah oui.
Et vous avez déjà choisi les comédiens avec lesquels vous allez travailler?
Absolument. Il n'y a ni Suliane, ni Benjamin Laverne, qui n'étaient pas libres, mais j'ai le plaisir de travailler à nouveau avec Laurent Lafitte à cette occasion. Ouais. Et voilà, avec Alain Langlais, Julie Sicard, Claire de la Rue du Camp, Véronique Vella, j'en oublie, excusez-moi, Biranba, tout ça.
Et je vous embête plus après, c'est promis.
Ah non, mais ça m'embête pas du tout.
C'est quand?
Je suis très heureuse. Eh bien, la première va être le 22 janvier.
Très bien. On en reparlera, j'espère, à ce micro. Et surtout, on a hâte de voir ça. Daniel Morin, des excuses à présenter.
Bien sûr, je suis désolé déjà pour vous, Nagui. Ouais. Je sais, il y a longtemps, vous aviez demandé à votre papy de vous offrir deux opérations, un raccourcissement du nez, un allongement des jambes. Et visiblement, c'est l'inverse qui s'est produit.
Il s'est trompé. Ouais.
Désolé pour nos auditeurs cinéphiles qui m'ont appelé pour nous reprocher d'avoir reçu ce matin deux loseuses entre une réalisatrice qui ne sait pas jouer, une comédienne danseuse africaine qui se fait couper au montage. Écoutez, on peut pas être au top tous les jours, les amis. Et désolé pour Philippe Bertrand et tous nos auditeurs qui depuis hier attendaient notre émission spéciale Sodomie promise par Nagui et qui finalement voilà, nous ont trouvé un peu prudes. Hein. Ouais, c'est vrai, on a même pas reçu trop de balles ce matin, mais on a quand même parlé, je cite Camille Cotin, de femmes enceintes qui passent leur temps sur YouPorn. Alors revenez demain, ça va tambouriner, ça va être fun, on parlera pédophilie dans l'église avec Grégoire Delatour.
C'est vrai, en plus. De la cour.
Ah, de la cour.
De la cour.
Avec un nom un tout petit peu moins phallique.
Mais en effet, il y a beaucoup de vannes, c'est sans aucune limite, c'est volontairement choquant mais extrêmement drôle, et puis il y a toute la part humaine qu'il y a dans les vies totalement brisées des uns et des autres, parce qu'il n'y a pas que Mouche qui a une vie brisée, ils ont tous des fêlures qui se retrouvent et qui se rencontrent dans Mouche à partir du 3 juin, 21h sur Canal. Merci Camille Cotin,
merci
Jeanne-Éry, et bravo. Rendez-vous donc demain avec Grégoire Delacour.
T'es sûr?
Mon père, je suis sûr. Et maintenant, c'est Philippe Bertrand et ses carnets de campagne. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Nagui, bonjour les amis. Daniel a raison, je suis un petit peu déçu. Enfin, ne prenez pas la mouche. Hein, mais...
Non, j'ai pas pris.
C'est excellent.
Justement. M'attendais à autre chose.
Ça, c'est fait.
Donc, c'est tout demain.
J'ai fait du marketing. Merchandising.
Ah oui, bravo.
De la pub.
Très bon teaser.
Bonne journée.
Salut.
Ciao.